Nous allons entamer la seconde partie de cette conférence de presse avec la session des questions et des réponses. Avec une première question ici à Kinshasa. Oui, madame.
Merci, c'est Elvira Panzou pour le compte de la RTL. Le président de la CENI, Corneille Nangaa, a laissé entendre que les élections attendues en décembre de cette année n'auront pas lieu avant au moins avril 2019. Quelle est la réaction de la MONUSCO? Merci.
Notre réaction est une réaffirmation, la réaffirmation que la MONUSCO, à travers ses bons offices, demeure engagée à soutenir les principes de l'accord du 31 décembre. Alors, vous le savez, cet accord a été rédigé dans un esprit de consensus entre les différentes composantes de la scène politique congolaise, avec l'objectif de parvenir à la tenue d'élections crédibles et apaisées en République démocratique du Congo. Alors, cet accord énonce que les parties prenantes, donc les signataires de cet accord, conviennent de l'organisation de trois élections, une seule séquence, à savoir la présidentielle et les législatives nationales et provinciales, au plus tard le 31 décembre 2017. Mais elle dit aussi que le CNSA, le gouvernement et la CENI peuvent unanimement apprécier le temps nécessaire pour le parachèvement de ces élections. Donc, à nos yeux, cet accord est toujours valable, tout comme la résolution 2348 du Conseil de sécurité qui nous demande d'accompagner sa mise en œuvre. Et c'est la raison pour laquelle le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies, Maman Sidikou, a déclaré mercredi dernier devant le Conseil de sécurité qu'à l'heure actuelle, la publication d'un calendrier électoral réaliste, l'établissement d'un budget pour la tenue des élections, la mise en œuvre des mesures de décrispation et la garantie du respect des droits et libertés fondamentales étaient les principales conditions à remplir pour faire avancer le processus politique. On va prendre une deuxième question ici à Kinshasa. Oui, monsieur.
Merci. Moi, c'est Flavien Sens pour les comptes de Planète Télévision. Je reviens sur la siège que la RDC vient de gagner au Conseil des droits de l'homme. Aujourd'hui, presque tous les ONG sont mécontents que la RDC puisse siéger au sein de cette institution suite aux sanctions qui cadrent la violence des droits de l'homme. Quelle est la lecture de la MONUSCO suite à cette mécontente des ONG?
Alors, il faut préciser que c'est l'Assemblée générale des Nations Unies qui a élu ce lundi 4 représentants du groupe Afrique au sein du Conseil des droits de l'homme. La RDC était l'un des pays candidats et elle a été élue, ce qui n'appelle aucun commentaire de notre part. En tant que mission de l'Organisation des Nations Unies, nous n'avons pas à commenter les décisions des États membres de notre organisation. Faisons la distinction entre les institutions et le travail de terrain. Le Conseil des droits de l'homme est un organe intergouvernemental du système des Nations Unies. Il est composé de 47 États et ce Conseil a la responsabilité de renforcer la promotion et la protection des droits de l'homme autour du globe. Ça, c'est pour l'institution. Ici, sur le terrain, et conformément au mandat qui nous a été donné par le Conseil de sécurité, nous poursuivons le monitoring de la situation des droits de l'homme pour, et je vais reprendre les termes exacts de la résolution 2348, pour constater et dénoncer les violations des droits de l'homme. Le représentant spécial, je fais encore référence à son intervention la semaine dernière devant le Conseil de sécurité, car elle était capitale en cette période. Donc le représentant spécial du secrétaire général, M. Sidikou, l'a donc souligné mercredi dernier devant le Conseil, et il a rappelé que la garantie du respect des droits et liberté fondamentale était l'un des principes de l'accord du 31 décembre et que sa mise en œuvre permettrait de faire avancer le processus politique. Voilà ce que je pouvais vous répondre par rapport à l'élection de la RDC au Conseil des droits de l'homme. Nous allons maintenant nous rendre à Goma pour une première question, s'il vous plaît.
Merci, c'est Aline Engwe pour le compte de chukuzunews.com. La MONUSCO, nous suivons tous les jours que la MONUSCO forme le policier, la PNC. Mais la question est de savoir, Chaque fois qu'il y a publication de rapports de la MONUSCO, on condamne toujours que le phare de la PNC sont toujours parmi les premiers violateurs de droits humains. Est-ce que la MONUSCO a suit quand même le policier après chaque formation? Merci.
Alors, en effet, nous, l'une des missions de la MONUSCO, mais aussi de certaines agences, fonds et programmes des Nations Unies, est de participer au renforcement des capacités, à la formation des forces de l'ordre et des forces de sécurité en République démocratique du Congo. Mais il est important de savoir que ce soutien est conditionné au respect du droit international et en particulier des droits de l'homme. Il y a une règle aux Nations Unies qui s'applique ici à la MONUSCO, mais à dans toutes les entités des Nations Unies. Et cette règle s'appelle la politique de diligence voulue en matière de droits de l'homme. Alors, qu'est-ce que ça signifie? C'est un terme un petit peu barbare, je vous le concède, mais ça veut dire concrètement que tout appui aux forces de l'ordre et aux forces de sécurité de la RDC est fourni de façon conforme aux valeurs et principes garantis par la Charte des Nations Unies. Donc les forces de sécurité des Nations Unies. Nous avons un petit problème technique avec un écho. Alors, je continue. Donc cette politique de diligence voulue des Nations Unies en matière des droits de l'homme signifie que les forces de sécurité qui recevront un appui de la part des Nations Unies doivent remplir des obligations à respecter, à promouvoir et à encourager le respect du droit international humanitaire, des droits de l'homme et du droit international des réfugiés. Il est important de savoir que cet appui des Nations Unies peut être refusé ou retiré si ces conditions ne sont pas remplies. Donc oui, nous soutenons les forces de sécurité, mais dans un cadre d'intervention très réglementé et très précis. Une deuxième question à Goma, s'il vous plaît.
Je suis en avec vous pour les comptes de la RDC.
Goma, est-ce que vous pouvez régler vos problèmes de micro rapidement, ou alors on revient ici à Kinshasa le temps que vous voulez. On revient à Kinshasa le temps que on règle les problèmes à Goma. Oui, monsieur. Oui. Le micro arrive vers vous.
RTBS 1, Patrick Félix Abelli. Madame Marshall, 504 jours de la CENI, cette situation qui défraye la chronique. Au cours des travaux, il y a une proposition de réduire ces jours. Vous, du côté de la MONUSCO, vous affichez les souhaits de soutenir les processus, mais entre-temps, du côté gouvernement, on essaie un peu de jouer à la prolongation. Votre avis, pensez-vous apporter à cette situation s'il pourrait passer à la réduction de ces nombres de 504 jours proposés par la CENI pour organiser les élections en RDC?
Alors, au risque de me répéter, je vais rappeler que donc nous soutenons les principes de l'accord du 31 décembre et que nous appelons à la publication d'un calendrier réaliste. Qu'est-ce que ça signifie dans notre entendement un calendrier réaliste? C'est un calendrier assorti d'un budget qui doit également être réaliste. C'est un calendrier qui respecte les principes de l'accord du 31 décembre et qui suscite l'adhésion du plus grand nombre. Donc on revient à cet esprit de consensus qui avait prévalu lors de la signature de l'accord de la Saint-Sylvestre. Quant au soutien des Nations Unies, je vous renvoie à la réunion qui s'était tenue le 19 septembre dernier à New York en marge de l'Assemblée générale des Nations Unies. Une réunion consacrée à la RDC et au cours de laquelle les partenaires de la République démocratique du Congo, les Nations Unies, mais aussi l'Union africaine, l'Union européenne, l'Organisation pour la francophonie, la SADC, s'étaient engagés à apporter leur soutien à la RDC pour la tenue d'élections transparentes, démocratiques, apaisées et libres. Donc, et ce soutien, cette proposition de soutien avait été également formulée par le secrétaire général lors de sa rencontre bilatérale avec le président Kabila, toujours en septembre dernier. Donc voilà où nous en sommes, mais vous le savez, nous l'avons répété, je le répète encore aujourd'hui, ce soutien et la conduite à tenir dans les prochaines semaines. D'abord, le chaînon qui manque, c'est la publication du calendrier. Donc, ne brûlons pas les étapes, publions d'abord un calendrier, avoir un papier et non pas seulement des déclarations. Donc, publions un calendrier et ensuite, nous verrons, il y aura sans doute des discussions et nous verrons quel est le soutien qui peut être apporté. Oui, monsieur.
Merci pour la parole, Symphorien Katumba. Pour le compte de l'explorateur, j'ai une préoccupation à l'intervention de madame vous, Florence. Journée internationale pour l'élimination de la pauvreté. Dans le cas d'espèce, l'RDC affiche l'image d'une pauvreté extrême. Malgré les efforts qui sont fournis par-ci par-là, la MONUSCO a quel type de rubrique prioritaire à court terme et à long terme pour faire face à ce grand défi qui guette la République démocratique du Congo dans son fort intérieur? Je vous remercie.
Alors, comme vous le savez, et c'est la raison pour laquelle toutes les semaines, on se présente à vous en tant que conférence One UN, conférence des Nations Unies, ça ne vous a pas échappé, il n'y a pas que la MONUSCO présente en RDC en tant qu'institution des Nations Unies. Nous avons évidemment la pauvreté dont le pays nous préoccupe, mais le mandat que nous a donné le Conseil de sécurité nous demande de nous concentrer en priorité sur la protection des populations civiles menacées par les groupes armés et également la mise en œuvre donc de l'accord du 31 décembre. Ce sont les agences, fonds et programmes des Nations Unies qui sont particulièrement attachés à mettre en œuvre des programmes visant à la réduction de la pauvreté, notamment nos collègues du programme des Nations Unies pour le développement, qui malheureusement aujourd'hui ont été retenus dans d'autres réunions et ne sont pas avec nous. Mais je vous invite, un communiqué de presse vous sera remis à ce sujet à l'issue de cette conférence de presse, et je vous invite à vous rapprocher des collègues du PNUD pour en savoir plus à ce sujet. Nous repartons à Goma en espérant qu'une nouvelle fois, les programmes de son auront été résolus. Une question à Goma, s'il vous plaît.
Voilà, je suis Amour Imani pour les comptes de la radio RTGB Goma. J'ai une petite question que je vais adresser à Serge Hag. Monsieur Serge Hag, qu'est-ce qui explique, selon vous, cette persistance de l'insécurité à Beni? Mais aussi, il y a une autre question à Florence Marshall. Ça va, merci.
Colonel, c'est à vous pour la réponse. Alors, je vois sur mon écran de contrôle que le colonel est en train de parler. Malheureusement, le son ne nous parvient pas. Colonel ?
Oui, je vous entends également.
Ok.
Je disais donc à moi. Ouais. Alors, je dis que la question que pose le journaliste est de savoir ce qui explique la persistance, n'est-ce pas, de l'insécurité sur le territoire de Beni. Moi, je voudrais rappeler à notre confrère que si ce n'est qu'aujourd'hui qu'on parle qu'il y a recrudescence de reprise de ces activités des ADF, mais pendant au moins une longue période, et vous étiez témoin. Il n'y a pas eu d'activité de grande ampleur telle qu'on l'a vécu à Beni actuellement. Alors, c'est dire que, effectivement, les troupes qui y sont, que ce soit nos partenaires qui sont les FRDC et les forces de la MONUSCO, font d'énormes travail. Et ce qu'il faut retenir, c'est que les forces de la MONUSCO, de toute façon, c'est de ça que je parle, et restent vigilants dans cette zone et sont prêtes à faire face à toute éventualité, à l'heure où nous parlons. C'est ça qui est important. Merci.
Oui. Oui, je complète en disant qu'effectivement, la mission, on l'a vu depuis le début de la reprise des attaques des présumés ADF, la mission reste déterminée à lutter contre ce groupe armé, mais contre tous les groupes armés, et la mission reste déterminée à mettre tout en œuvre pour que son mandat de protection des populations civiles victimes de violences puisse aboutir. Une deuxième question à Goma.
Oui, je suis Victor Bigati pour le compte du journal La Ponctualité à Paris ici à Goma. Je voulais juste toujours poser la question au colonel. Colonel Hack, j'ai comme constat que quand les ADF attaquent, là vous ripostez. Et pourquoi ne pas chaque fois continuer à traquer les ADF avant qu'ils attaquent?
Répétez la question.
Avant qu'il attaque. Oui, merci pour la question. Alors, je crois qu'on revient, nous revenons sur le même sujet, les ADF. La traque contre les ADF. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure que autour de Béni, pendant une bonne période, cette traque a eu lieu. Et il faut dire que les ADF, à un moment donné, ont commencé à faire profil bas, et ils sont pas visibles, et vous les voyez pas, et subitement, c'est comme dirait quelqu'un, comme une braise, qui, à un moment donné, reçoit d'énergie et rebondit. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que la force de la MONUSCO, et toutes les forces qui sont là et qui travaillent, n'ont jamais perdu de vue que une force qui est éteinte, qui est presque éteinte, ne pourrait peut-être pas se réveiller. Mais la mission de la MONUSCO, de la force de la MONUSCO, est de veiller, de travailler en synergie avec les populations qui sont là et qui savent de quoi il s'agit, de travailler en synergie avec la police nationale qui est sur les lieux et qui renseigne. Et lorsque les renseignements aboutissent, je crois que le travail est efficace et on pourrait venir à bout de ces forces négatives-là. Merci.
Merci. Nous revenons ici à Kinshasa avec une question, madame, sur ma gauche. Le micro est en train d'arriver. Voilà, ici.
Merci, madame Florence. Et madame Christiane Nekambo, du journal des Nations.net. Madame Florence, vous avez dit que la MONUSCO respecte l'esprit de la lettre de l'accord de la Saint-Sylvestre, c'est-à-dire qu'au plus tard, au mois de décembre, il faut qu'il y ait des élections et qu'en même temps, il y a possibilité, au cas où ça ne marchait pas, que le gouvernement, la CENI et le CENSA puissent apprécier. Mais en même temps, il y a du côté des rassemblements où on parle, on aspire, on se dit qu'il faut qu'il y ait l'implosion. Qu'est-ce que la MONUSCO pense de cela, de ce point de vue, et quel est le point de vue de la MONUSCO, et en plus, quelles sont les précautions qui ont été prises par la MONUSCO, étant donné que nous pensons, nous voyons que de l'autre côté, ils tiennent ferme à ce qu'ils doivent faire, c'est-à-dire que la population se mette dans la rue.
Une fois encore, la réaction que je vais avoir, c'est de celle de réaffirmer notre croyance en la possibilité de parvenir à nouveau à l'esprit de consensus qui avait prévalu lors de la signature de l'accord le 31 décembre dernier. Notre représentant, le représentant spécial du secrétaire général, vous le savez, mène des missions de bons offices avec toutes les parties prenantes dans le processus afin de parvenir à cela. Et évidemment, nous appelons tout le monde à pouvoir régler cette situation, à débloquer cette situation dans des conditions les plus pacifiques possibles. Oui, monsieur.
Merci Madame Florence, Médar Mouyaya du journal Le Potentiel. Madame Soufra, qu'on revienne sur la question électorale. Elle nous préoccupe tant. autant que vous-même, comme vous le savez, vous voyez ce qui se profile à l'horizon de la RDC. Et en tout cas, je ne pense pas que ce soit un lendemain meilleur. Connaissant la classe politique congolaise, jusqu'à preuve du contraire, rien ne prouve que ce consensus entendu sera dégagé. Tout à l'heure, on l'a dit, l'opposition accuse la majorité de développer des stratagèmes pour tirer les choses à longueur. Bref, elle estime qu'il n'y a pas volonté dans le camp de la majorité d'organiser ces élections. Parce que d'aucuns comptent sur les bons offices entrepris par Maman Tshidiku, chef de la MONUSCO. Nous voudrions savoir plus où en est-on avec ces bons offices. Ces bons offices sont-ils éternels ou à un moment donné, la MONUSCO, qui représente l'ONU ici, doit quand même arrêter avec la récréation, faire comme on l'a fait autrefois à Sun City, mettre tout le monde autour d'une table, lancer une formule de sauvetage pour sauver la RDC, n'est-ce pas, du gouffre.
Alors, je vous renvoie, donc, comme vous le savez, le mercredi dernier, la situation en République démocratique du Congo a été examinée au Conseil de sécurité. Vous le savez aussi, c'est le Conseil de sécurité qui nous donne notre mandat, qui nous donne notre feuille de route, nos priorités. Suite à la présentation du représentant spécial du secrétaire général la semaine dernière devant le Conseil de sécurité, présentation au cours de laquelle, je le rappelle, il a appelé une nouvelle fois à la publication d'un calendrier électoral réaliste, les membres du Conseil de sécurité ont renouvelé à la fois leur confiance en la MONUSCO et en son représentant spécial, mais aussi ont décidé que la mission allait continuer avec la résolution 2348. Donc, à ce jour, nous sommes toujours dans le cadre de la résolution 2348 qui nous demande d'accompagner le processus mis en place par l'accord de la Saint-Sylvestre de l'année dernière. Donc, nous continuerons dans cette voie tant que le Conseil de sécurité ne nous aura pas demandé de faire autre chose. Je ne sais plus où nous en sommes. Je crois qu'on repart à Goma. On va aller à Goma pour une question.
Merci. Je m'appelle Badibanga Poivre d'Arvor. Une question à Madame Florence. Je précise évidemment que je suis correspondant d'Afrique numéro 1 au sud Kivu. La question est de savoir exactement si les conditions humanitaires de déplacés, de ces millions de déplacés dont vous avez dressé le tour d'horizon, vous choquent ou pas? Dans quelle mesure, précisément, la MONUSCO s'implique dans les plaidoyers en faveur de ses concitoyens auprès du gouvernement central? Merci.
Alors, votre question concernant les populations déplacées, je serais beaucoup plus confortable à demander à mon voisin qui représente l'équipe de pays, mais qui travaille aussi à Odisha, de répondre à cette question.
Donc, ce que nous pouvons dire est que nous ne sommes pas indifférents vis-à-vis de la situation des déplacés. Ce qu'il faudrait aussi savoir est que quand il y a des personnes qui se déplacent, il y a des étapes à suivre pour parvenir à définir ou à déclencher un mécanisme d'assistance afin d'améliorer leurs conditions de vie. La première des choses est que quand nous recevons l'information sur le mouvement des populations, nous devons procéder à des évaluations. C'est grâce à ces évaluations que nous pouvons définir les besoins prioritaires et les besoins urgents pour les déplacer et définir réellement si c'est un déplacement qui va rester longtemps ou c'est un déplacement provisoire. C'est après tout ça que l'on peut passer à la recherche des fonds et voir ce qui peut être fait. Quant à ce que nous faisons pour parvenir à impliquer le gouvernement, c'est que vous savez qu'au début de chaque année, nous rédigeons un plan de réponse humanitaire. C'est là que nous inscrivons les grandes lignes des activités que nous envisageons et nous les partageons avec le gouvernement. Et c'est toujours les ministres des Affaires humanitaires qui procèdent au lancement du plan de réponse humanitaire. C'est notre façon de l'impliquer. Et nous reconnaissons aussi qu'il y a des actions qui se font par le gouvernement sans passer forcément par les acteurs humanitaires. Et vous le savez, ça se fait toujours. On en parle quand le gouvernement le fait. Et nous savons que nous maintenons de bonnes relations et des communications, des collaborations avec le gouvernement pour la réponse aux problèmes des déplacés.
Et en ce qui concerne la MONUSCO, si je peux ajouter, notre mandat de protection des civils nous demande de protéger donc les civils sous la menace. Et évidemment, parmi ces civils, il y a aussi les populations vulnérables, parmi lesquelles les personnes déplacées, les personnes réfugiées, donc qui entrent tout à fait dans le cadre de notre mandat de protection. On revient ici à Kinshasa. Oui, monsieur, une question.
Guy Oloume, RTMC de développement, Florence. Hier mardi 17 octobre, l'humanité a célébré la journée mondiale du refus de la misère. Actuellement, en RDC, trois choses semblent devenir des constances qui annulent tout effort de développement. Je cite, l'insécurité alimentée par des groupes armés, les épidémies récurrentes et la crise humanitaire. Trois fléaux, Marshall, qui frappent avec acuité. Pensez-vous qu'avec un tel tableau très sombre, dans 5 ans, le taux de pauvreté va décroître ou s'accentuer dans le pire? Merci beaucoup.
Alors, comme je l'ai répondu tout à l'heure, les personnes qui sont les plus à même de répondre sur les questions liées à la réduction de la pauvreté sont les collègues du programme des Nations Unies pour le développement. Donc, je vous renvoie à nos collègues. Après, par rapport à ce que la situation que vous avez décrite, j'ai envie de dire que ça illustre tout à fait l'engagement et la présence des Nations Unies ici en République démocratique du Congo, avec un volet de stabilisation, de pacification du pays, un soutien humanitaire lorsqu'il y a soit des catastrophes naturelles ou soit des épidémies ou encore des déplacements, des guerres, etc. Et puis un volet de développement. Donc c'est la raison pour laquelle nous travaillons de façon coordonnée et interdépendante. Oui, monsieur, on va reprendre ici une question à Kinshasa.
Oui, monsieur Nkiri Maï de l'Agence congolaise de presse. Je vais parler de l'insécurité dans le parc de Virunga. Mais avant, je voudrais vous rappeler la remarque qu'a faite le mercredi passé par notre ami. Parce que vous savez que nous sommes ici parce que nous sommes des journalistes pour la paix. Nous ne venons pas ici pour, je ne sais pas, faire quoi que ce soit. Mais il est vraiment malheureux de constater que nous sommes considérés comme une peste jusqu'à nous laisser en dehors de la MONUSCO et vraiment à côté des véhicules qui passent. Ce n'est pas normal. Personnellement, je suis là depuis 1999 pour soutenir l'action de la MONUSCO. On ne peut pas me laisser à la merci des véhicules qui passent. Ce n'est pas normal. Ça, c'est de un. De deux, je voudrais, si vous pouvez me dire un mot sur l'insécurité et les groupes armés qui sont renforcés au niveau du parc de Virunga. Et quelle est la situation sécuritaire dans ce parc qui est un patrimoine mondial?
Donc je vais laisser le colonel Hague répondre à cette question, mais avant toute chose, si vous avez encore connu aujourd'hui des problèmes de sécurité, je tiens au nom de la mission à présenter mes excuses par rapport à cela. Évidemment, cette conférence de presse est un endroit où nous sommes tous partenaires. Vous êtes journaliste, j'ai été journaliste, nous travaillons ensemble et le mot clé qui doit guider nos relations, c'est celui du respect. Donc je vais m'assurer que de tels comportements ne se reproduisent plus. Et maintenant, nous allons à Goma voir le colonel Hague qui peut nous parler de la situation sécuritaire dans le Virunga.
Oui, merci madame. La question de sécurité, c'est, moi je crois que dans un premier temps, il faut voir ça de façon globale. Mais lorsqu'on parle du parc de Virunga, c'est beaucoup plus sérieux. Parce que de temps en temps, nous avons des rapports. La MONUSCO suit de près cette situation. Et on a des rapports qui font état de ce que parfois des gens sont attaqués et ils urgent que des mesures à ce niveau-là soient prises. Mais ce qu'il faut retenir dans un premier temps, c'est que en réalité, la question de sécurité revient ou relève des autorités du pays. Dans un premier temps, La MONUSCO apportera son soutien de façon sérieuse lorsque la demande serait faite. Je vais peut-être également permettre au commandant Adil d'apporter quelques éléments sur cette question de sécurité qui est préoccupante. Merci.
Donc, pour compléter la réponse des colonels, cette partie constitue une préoccupation majeure pour nous. À maintes reprises, on a fait des opérations, notamment contre les groupes armés qui sont là, qui sont actifs. On a mené des opérations contre les Maïmaï Charles, au côté nord de Virunga. On continue notre travail conjointement avec les FRDC, avec lesquels on a un dialogue extrêmement soutenu. Cette situation aussi a été l'objet d'interactions avec la leadership de la force et les populations locales qui nous ont parlé de ça. Donc, comme on dit, on a un dialogue soutenu avec les FARDC pour voir dans quelle mesure on peut aider ou même déployer des troupes pour répondre à cette situation. Donc, voilà ce que je peux ajouter à la réponse de Conrad.
Messieurs, nous revenons ici à Kinshasa pour une question qui pourrait peut-être être la dernière. Oui, monsieur.
Madame Marshall, logiquement, la question que je voulais poser s'adressait à vous.
Vous Amen
Zimouani pour Numérica Télévision, je m'excuse. Je disais la question que je voulais poser vous était adressée, mais vous ne répondez pas trop à ces questions-là. Je m'en vais vers le colonel Hag. Colonel, vous avez parlé de cette situation à Beni, où vous dites que les ADF viennent et reviennent. En tout cas, quand ils viennent, vous réagissez. Quand ils reviennent, c'est vrai, vous semblez plutôt être surpris par leur retour. Comme tout le monde a dit ici, je ne sais pas si stratégiquement ils sont plus forts que le FRDC et la MONUSCO réunis. Je me pose la question vraiment, qu'est-ce qui se fait pour que, à chaque fois, vous soyez surpris, qu'ils vous surprennent, je veux dire. C'est ça ma question, mon collègue.
Ok. Donc, concernant la situation à Beni, donc je prends la parole. Depuis octobre 2014, depuis le massacre d'octobre 2014, plus de 10 opérations majeures ont été effectuées dans ce territoire-là, soit d'une manière latérale, soit en coopération avec les FRDC. Tous les bastions des ADF, dans le triangle compris entre Mbo, Kamango et Rengete, ont été repris. On les a donnés aux FRDC. Donc, je pense que vous conviendrez avec moi qu'il s'agit d'une menace asymétrique. On n'est pas contre une armée, on n'est pas contre une entité statique, c'est une menace asymétrique, mais conformément à notre mandat, avec les moyens dont on dispose, on a engagé la FIB là, on continue nos opérations, on continue notre traque à l'encontre de ce groupe armé. Au moment où on parle maintenant, des opérations sont conduites conjointement avec les FRDC le long des territoires de Mamandioma et Somaliri. Donc on n'est pas surpris. À chaque fois où il y a une menace, on l'envisage avec professionnalisme. Et je pense que même cette situation, c'est juste des banditisme plus que d'une action militaire avec un objectif politique ou militaire affiché. Voilà ma réponse pour vous.
Oui, si je peux compléter, je vous renvoie à la lecture du rapport du secrétaire général sur la situation en RDC, le dernier rapport dans lequel la mission indiquait clairement que si la situation s'était, il y avait une accalmie, nous restions quand même en alerte permanente. Donc nous n'avons pas été surpris. Je vous invite vraiment à lire les rapports qui sont produits par les Nations Unies sur la situation en République démocratique du Congo. C'est sur cette invitation donc de lecture que je mets fin à cette conférence de presse. Merci à tous et on se retrouve la semaine prochaine à 11h15, heure de Kinshasa.